Judaïsme pluriel. Un regard sur les sciences, l'histoire, la musique, la littérature, animé par Roland Bentoussan. Chers amis, bonjour. Bonjour Daniel Chon. Nous avons fait une première émission sur le thème musique et cerveau. Et je rappelle que tu es à la fois musicien et chercheur. Tu as étudié la musique au Conservatoire de Padoue en Italie et tu joues dans de nombreuses formations baroques, classiques et jazz. Tu es aussi docteur en neurosciences et directeur de recherche. Tu travailles sur le lien entre le langage, la musique et le cerveau. Nous avons parlé la dernière fois de notre cerveau humain. Ce cerveau a-t-il quelque chose de particulier qui le rend apte à la musique? Nous avons aussi parlé de cerveau droit et de cerveau gauche par rapport à la musique, toujours. Et puis, on a abordé des notions de rythme, de mélodie, de tonalité, des syntaxes aussi, de l'harmonie, en regard d'ailleurs des syntaxes du langage. Aujourd'hui, j'ai bien d'autres questions sur ce thème musique et cerveau. Alors, si tu veux bien, voici ma première question. Y a-t-il un codage inné ou culturel inscrit dans le cerveau qui permet de ressentir le juste, le faux, le beau ?
Oui, il y a les deux. Il y a un codage inné, il y a une partie culturelle. C'est un peu l'éternel débat entre nature et culture, hein, qu'on retrouve un peu partout dans la philosophie aussi, et qu'on retrouve dans la problématique de la musique. Alors, c'est important d'arriver à comprendre en fait que ces deux aspects, ils sont importants. Il y a des gens qui vont plutôt défendre la partie innée, il y a plutôt des gens qui vont défendre la partie culturelle, mais ça, je pense que c'est moins intéressant ici. Et donc, je vais donner quelques exemples pour défendre un peu les deux causes.
Okay.
Donc, pour défendre la cause de l'inné, on va prendre un exemple d'un musicien. Là, on vient d'écouter Fabrizio Ciprani qui jouait du violon, la sonate de Vivaldi, mais on pourrait en prendre.
Alors, qui est-ce qui jouait du violon? J'ai oublié de te le demander.
Oui, c'était Fabrizio Ciprani, qui est voilà. Un violoniste italien qui joue du Vivaldi, qui était donc composé à Venise, à côté de chez moi, voilà. Mmh. Donc joué par un grand violoniste italien. Mais on peut prendre un cas encore plus connu que Fabrizio Ciprani, pas forcément tout le monde le connaît, mais on va prendre Yehudi Menuhin,
oui,
qui est sans doute un des violonistes le plus connu du 20e siècle. Et Yehudi Menuhin, donc, pour parler de l'inné, les gens disent, moi, je vais jamais arriver à jouer comme lui. Donc, forcément, si on est bon musicien, en fait, c'est codé dans les gènes. Et les gens vont dire, moi, je suis pas très bon musicien, j'ai pas une oreille musicale, etc. On va entendre ça assez souvent. Et ceci est en partie vrai. Donc, Menuhin, c'est vrai que c'était un talent extraordinaire et pas n'importe qui, même avec n'importe quelle quantité de travail, pourrait arriver à jouer à 12 ans 3 concertos à la New York Philharmonic Orchestra, 3 concertos différents de Brahms, Beethoven, je ne sais plus quoi ce qu'il avait joué dans la même soirée par cœur à 12 ans. Voilà, donc il faut le faire. Il y en a d'autres des génies dans la musique, d'autres qui sont très connus, bien sûr Mozart, Beethoven, Mendelssohn, il y en a plein qui étaient très très talentueux déjà depuis jeune âge, donc qui montrent qu'il y a sans doute un côté inné. Cela dit, Menuhin lui-même, dans son autobiographie, il dit une chose que je trouve très intéressante concernant le talent, parce que quand on parle de inné, on vient à la notion du talent. Et il dit le talent, il dit, moi, pour moi, c'était pas facile de jouer du violon quand j'étais petit. Il dit lui-même, alors qu'effectivement, il était très bon, mais dit, mais ce que j'avais à moi, c'était le besoin de jouer du violon depuis le plus jeune âge. Une folle envie de faire quelque chose avec ces sons, avec cet instrument-là. Et donc, c'est là où on voit une notion un peu différente de ce côté-là. Donc, il ne faut pas concevoir l'inné comme un enfant à 3 ans, il naît, il sait déjà jouer.
Il sait tout, voilà.
Pas du tout. Donc, lui, il dit, un enfant, il naît, et effectivement, il peut aimer ou pas la musique. Et lui, forcément, il aimait énormément. Et sans doute qu'il avait aussi un cerveau qui avait une prédisposition aussi. Je vais en venir aussi par rapport à certains airs qui sont importantes. Mais après, il faut travailler. Après, il faut travailler. Et Menuhin, lui, il a travaillé comme un fou depuis qu'il était tout petit. Et donc forcément qu'à 12 ans, il a déjà cumulé beaucoup plus d'heures de pratique musicale que moi, j'ai cumulé jusqu'à maintenant, que j'en ai 44 ans. Mmh. Tu vois. Donc voilà, il y a cet aspect-là. Ceci étant dit, il y a pas mal d'études qui montrent que un des meilleurs prédicteurs de la réussite d'un musicien, c'est le nombre d'heures de travail.
Ah bon.
Donc ça va plutôt dans le sens du côté de la culture, donc de la pratique. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le plus on travaille, le plus on a des chances de réussir, d'être un bon musicien. Et en ce qui concerne la recherche autour du cerveau, on retrouve des données qui sont similaires. Ça veut dire qu'on va regarder, par exemple, comment des cerveaux des musiciens, de nos musiciens, ils sont différents. Et on trouve qu'en fait, certains airs, par exemple des airs motrices qui contrôlent la main ou le corps calleux, en fait, qui est une structure qui permet de communiquer entre l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche.
Oui.
Donc ces structures-là, ils vont être différentes, vont être peut-être plus gros, il va y avoir plus de soit des substances blanches, donc la communication entre les deux hémisphères, soit plus de neurones, du coup, au niveau des aires motrices. Mais que ces différences, elles vont être plus importantes le plus on a travaillé, en fait, le plus d'années on a de pratique derrière. Donc ce qui veut dire que en réalité, la pratique va façonner le cerveau dans son fonctionnement et voire même dans sa forme. On trouve vraiment des formes légèrement un peu différentes, je ne vais pas rentrer dans les détails, dans le cerveau du musicien. Et donc ces deux aspects, ils vont bien sûr, ils vont ensemble. Et donc oui, il y a un côté inné, mais oui, il y a un côté culturel. Et aussi sur l'aspect inné, un autre point qui peut être important aussi, c'est le pendant pathologie. C'est-à-dire que d'un côté, on peut être comme Menuhin, donc avoir un talent, comme oui. On peut le définir comme on veut. En tout cas, lui, il le définit comme cette folle envie de jouer et une facilité aussi quand même. Et de l'autre côté, on peut avoir des gens qui, eux, ils ont du mal à différencier les sons, par exemple. Et ça existe, un trouble qu'on appelle la musique congénitale. Donc, congénitale, ça veut dire qu'il y a un déficit de naissance.
Oui.
Des gens que de naissance, c'est pas forcément héréditaire, mais il y a un petit côté héréditaire. Et de naissance, ils ont du mal à distinguer deux sons. On fait pa-pa, ils vont dire bah, c'est le même son.
Même.
Voilà. C'est sûr, ces gens-là, ben, ça va être dur pour eux de devenir des musiciens. Donc, encore une fois, ça montre comme il peut avoir un côté inné. Mais pour moi, je pense que surtout dans notre société, à un certain moment, c'est important de mettre l'accent sur l'aspect culturel, l'aspect travail, l'aspect pratique, l'aspect apprentissage. Dire voilà que n'importe qui, moi le message que je donne souvent, n'importe qui peut apprendre. Et il y a des projets qui sont en ce moment de faire apprendre de jouer d'un instrument de musique à des malades d'Alzheimer qui ont 85 ans, voilà, qui sont menés à Dijon, par exemple, par Emmanuel Billon. Donc je trouve ça génial. Et les gens, ils peuvent, même avec une maladie d'Alzheimer, ben, apprendre des notions de pratique d'instrument. Bien sûr, s'ils n'ont pas l'Alzheimer, c'est encore mieux. Des personnes âgées peuvent continuer à apprendre et se faire plaisir. Voilà, donc ça, c'est très important, je pense.
Alors, un autre aspect, quand on écoute de la musique, on peut éprouver de la satisfaction, comme je le disais tout au début. On peut éprouver de la satisfaction, on peut éprouver de la douleur, etc. Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau ? Est-ce que le cerveau, à la réception des informations de la musique, va sécréter des substances qui vont agir sur notre plaisir, sur notre...
Des substances magiques. Oui, il s'agit de la dopamine. Oui, la musique, comme beaucoup d'autres stimuli qui évoquent des émotions, en fait, il y a des études effectivement qui ont montré que le réseau émotionnel impliqué lorsqu'on écoute une musique, en fait, il y a des études assez jolies sur le frisson musical, donc on va écouter la musique qui te donne le frisson. Donc toi, tu viens chez moi avec ton disque, avec ton CD préféré, et tu dis, là, à ce moment-là, j'ai un frisson, et moi, je vais regarder dans ton cerveau ce qui se passe.
Ah, oui.
Et donc, on voit effectivement le cerveau limbique, plutôt, donc les régions les plus anciennes, voilà, l'archéocortex intérieur. Le cerveau reptilien, on l'appelle de plusieurs façons, en fait, qui est mis en jeu. Et ces structures, elles sont importantes d'une manière générale dans tout le ressenti émotionnel. Que ça soit en vision, dans la vision, que ça soit dans l'audition, voilà. Et il y a effectivement la sécrétion d'un neurotransmetteur qui s'appelle la dopamine. Au niveau de Voilà, là encore, au niveau du système, on appelle ça le système striatal, mais c'est pas très important, en tout cas, qui, les neurones, ils vont relâcher de la dopamine, et ça, c'est fait en réponse au plaisir engendré par la musique. Et là, je trouve que c'est un point important, parce que souvent, on me pose la question, dire, mais pourquoi, en fait, la musique, elle existe encore chez l'homme? Pourquoi, quelle est la valeur dans notre société de la musique? Pourquoi elle est toujours là? Pourquoi elle n'a pas disparu à fur et à mesure des millions d'années? Pourquoi elle est préservée? Il y a des chercheurs qui disent la musique, en fait, ça ne sert à rien.
Oui.
Et en fait, là, on voit très bien à quoi elle sert. Elle sert comme système régulateur, donc, pour créer ce qu'on appelle l'homostasis, en fait, donc un équilibre au niveau émotionnel. Donc, par l'écoute de la musique, on va relâcher des substances qui vont créer du coup un équilibre au niveau de notre système émotionnel. Et ça, le système émotionnel est très important, parce que je ne peux pas me fâcher avec toi en ce moment. Enfin, je ne peux pas péter les plombs comme ça et claquer la porte et partir. Voilà, donc c'est important de savoir réguler son système émotionnel. Et ça, c'est vrai dans la vie de tous les jours. Et d'autant plus il y a longtemps, donc, où il y avait des vies de groupe très, très intenses, où on peut imaginer que la musique a joué vraiment un rôle de régulateur des émotions au niveau des groupes.
Excuse-moi, je vais te poser une question. Pour bien comprendre pourquoi une musique peut provoquer de l'émotion chez une personne et puis le laisser complètement froid chez une autre personne. Est-ce que c'est culturel parce qu'on connaît cette musique et il va se passer quelque chose ou bien je ne sais pas quoi.
Oui, je pense qu'il y a forcément un côté culturel parce que là, quand il s'agit d'émotion, c'est quand même il faut la comprendre.
Il faut la comprendre.
On aime ce qu'on comprend, donc il faut connaître quelque chose. Voilà, il faut connaître, il faut savoir reconnaître, se reconnaître dans cette musique. Et donc effectivement, il y a un côté culturel qui est important. Néanmoins, dans toutes les cultures, on peut retrouver que la musique a cet effet, bien qu'elle soit différente. C'est sûr que moi, si j'écoute une musique peut-être qui est très éloignée de notre culture, on imagine une musique du Tibet ou de la Chine, peut-être je ne vais pas avoir des frissons de musique. Mmh. Et je vais être plus sensible à du Mozart, du Schumann, mais quelqu'un dans la Mongolie, peut-être lui, ne va pas du tout être sensible à Mozart. Mais par contre, il va être sensible à la musique de sa culture.
Oui, c'est ça. Ok. Alors, j'avais prévu de te poser une question, mais tu as presque répondu déjà. Certaines personnes chantent faux. Pourquoi ?
Oui, j'ai presque répondu, mais on pourrait en dire un peu plus. Donc, il y a effectivement des personnes qui souffrent de ce déficit congénital qui s'appelle la musie. Mais la musie a un déficit perceptif. Donc, effectivement, si on a un déficit perceptif, donc ça veut dire qu'on n'arrive pas à distinguer deux notes, la hauteur de deux notes, ben, on aura du mal à chanter. Donc, ces gens-là, forcément, ils vont chanter faux. Mais ces gens-là, ils vont aussi pas apprécier la musique. C'est des gens qui apprécient pas la musique et donc qui chantent faux. Mais il y a d'autres personnes encore que eux, ils apprécient la musique et ils chantent faux.
Ah.
Alors, ça, c'est intéressant. Ça, c'est assez intéressant parce que, du coup, il n'y a pas un trouble de perception, mais il n'y a pas de trouble de production non plus parce que c'est des gens qui parlent normalement. Bon, parler, c'est quand même très compliqué. Et donc, ils peuvent faire des notes. Tout simplement, ils ont du mal à faire le lien entre ceux qui sont en train de produire et ceux qu'ils entendent.
C'est le feedback qui se passe mal.
Voilà, c'est le retour qui se passe mal. Et le feedback, en fait, c'est le lien entre le système auditif et le système moteur.
Voilà.
C'est un peu l'image motrice de ce qu'on fait.
Mmh.
Et, en réalité, quand on entend quelqu'un parler, on entend quelqu'un chanter aussi, en fait, on s'imagine nous-mêmes, donc notre système moteur, il va s'activer comme si nous-mêmes étions en train de le faire. Et donc, pour ces personnes, ça, c'est un peu plus difficile à faire. Donc, pendant qu'ils sont en train de produire quelque chose, ils ont du mal à s'imaginer ce qu'il faut faire pour corriger.
Mm-hmm.
Tout le monde chante faux d'une certaine manière, mais on se corrige.
Oui.
Si tu me dis, chante-moi cette note-là, je vais la prendre de loin et je vais m'en approcher le plus rapidement possible.
C'est la régulation qui va se faire, voilà.
Et ben ces gens-là, ils ont du mal à faire Donc ça, c'est aussi une autre. C'est pas pour le coup, c'est pas vraiment considéré comme une pathologie. Mais il y a ces deux typologies qui sont assez différentes. Donc ceux qui ne perçoivent pas la différence entre deux notes et ceux qui entendent bien, qui pour le coup ont la chance de pouvoir apprécier la musique, mais ils sont frustrés par le fait que s'ils chantent Joyeux anniversaire ensemble, ben, tout le monde va se moquer d'eux. Et en fait, ils sont pour rien. Voilà, c'est pas un manque de bonne volonté. Voilà.
Thank you. toujours avec Daniel Schoen pour nous parler de cerveau et musique. Et alors Daniel, c'est toi qui as choisi cette musique?
Oui, c'est Yehudi Menuhin qui joue du Bach, mais merveilleusement. C'est vraiment, il a révolutionné la façon de jouer Bach, à mon avis. C'est avec un chant magnifique.
Bien, alors, est-ce qu'il y a similarité entre langage et musique?
Donc oui, la réponse est oui, mais je ne vais pas m'arrêter là, ne t'inquiète pas. Et c'est ma spécialité en plus, donc il y a similarité, il y en a nombreuses, on en a vu déjà quelques-unes. Mais on va commencer par dire déjà que langage et musique et partage le monde sonore. Nous sommes en train de parler, nos auditeurs sont en train de nous écouter, et donc là je pourrais être en train de chanter, et ils seraient en train de m'écouter, ou alors peut-être un peu moins, parce que je ne chante pas si bien que ça, et je joue du violoncelle plutôt.
Mais tu joues mieux.
Voilà, je joue mieux. Et donc l'information, elle passe du coup par le système auditif. Donc là déjà, on a une grande similarité, ce qui est nécessaire du coup pour le cerveau, quand on écoute de la musique ou on écoute quelqu'un qui parle, c'est de... codifier l'information, les premiers morceaux d'information. Donc, il faut coder déjà le son, l'information et le son, la vitesse, la hauteur, voilà, des choses comme ça. Mais après, il faut aller un peu plus loin. Il faut créer des catégories sonores. Par exemple, moi, quand je suis en train de parler, chaque fois que je dis, je veux dire, la syllabe, le son bas, par exemple, le son bas, je vais le prononcer légèrement d'une manière un peu différente d'une voix sur l'autre. Ça, c'est jamais le même acoustiquement. Mais toi, tu vas toujours percevoir bas. Écrit B-A. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une catégorie perceptive. Donc le cerveau a l'intérêt de faire des catégories, parce que si chaque fois que je dis un bas différent, tu percevais un truc différent, ce serait fou, on n'arriverait pas à se comprendre. Voilà, donc il faut avoir un alphabet limité, un nombre de phonèmes, de sons, donc de langage limité. Et c'est la même chose pour la musique, c'est exactement la même chose. On a des sons, on a des hauteurs, et ces hauteurs, il faut qu'elles soient limitées. Là, Dan Menuhin qui joue, on entend des sons, même si lui, il n'est pas exactement juste, même s'il est très juste, parce qu'il est très bon, mais on n'est jamais parfaitement juste quand on joue du violon. Parce que chaque fois qu'on va poser le doigt, il va être un endroit légèrement différent. Et pourtant, on va toujours entendre le do comme un do, etc. Même si on ne sait pas que c'est un do, mais voilà, cette note-là, on va la catégoriser comme une note différente de l'autre qui est un peu plus aiguë ou alors un peu plus grave. Donc, on a ce phénomène qu'on appelle la catégorisation et donc qu'on retrouve dans la musique et dans le langage. Ensuite, donc, on a des petites briques là, on a des petits éléments de base avec lesquels on peut commencer à jouer, comme je disais tout à l'heure, l'exemple du capla, donc l'enfant qui prend des petits morceaux, ils sont tous pareils. Dans le cas de la musique et du langage, on a des morceaux qui sont un peu différents, mais au final, il n'y en a pas tant que ça. Voilà, dans la parole, il y a un certain nombre de phonèmes, mais qui sont limités, ils dépendent de la langue, il y a des langues qui ont de plus ou moins de phonèmes. Et de la musique aussi, on pourrait imaginer, souvent on dit on a 12 notes quand même, après on a les octaves, okay. Après on a des instruments différents, le timbre. Ok, mais soyons le plus simple possible, prenons quelqu'un qui joue de la flûte avec deux octaves seulement, une petite flûte d'enfant, deux octaves, des sons relativement simples sur le plan acoustique, toujours les mêmes sons. Et là, le musicien, il va commencer à s'amuser, à les combiner, à les mettre les uns après les autres, et pour faire des mélodies. Et donc cet art de combinatoire dont on a déjà parlé tout à l'heure, on le retrouve dans la musique. Et le retrouve dans le langage. Donc, il faut combiner les sons pour faire des mots. Il faut combiner donc les phonèmes pour faire les mots. Il faut combiner les notes pour faire des petites mélodies. Donc là, encore une fois, voilà, on va retrouver une similarité. Et on a vu aussi tout à l'heure qu'après, il y a des règles qui vont gérer un tout petit peu la façon dont on peut. Donc, il y a quelques règles. Même avec le capla, l'enfant, il va vite comprendre que certaines configurations vont pas tenir parce qu'il y a la force de gravité qui va faire qu'à un certain moment, ça va tomber. Donc il y a certaines structures qui tiennent et d'autres qui tiennent pas, et donc ces structures, elles peuvent être, comme je disais tout à l'heure, pour la musique un peu plus perceptive, mais sont aussi cognitives, c'est-à-dire un peu abstraites. Donc il y a des règles qui sont plus ou moins abstraites et sont certainement très abstraites pour le langage, le passé, le futur, tout ça, c'est des catégories qui sont abstraites. Donc là, on peut avoir aussi des différences, mais là, on a quand même un panel de similarités. Et donc ça, c'est, voilà, on voit des similarités sur le plan des structures. Après, j'ai déjà aussi parlé un tout petit peu sur la question de la latérisation hémisphérique. On a vu qu'en réalité, il y a des similarités au niveau de quelles sont les régions qui traitent l'information musicale, l'information langagère. Et donc là, effectivement, je le répète, Vraiment, déjà, bien sûr, au niveau de la cochlée, mais au niveau sous-cortical et au niveau cortical, il y a énormément d'air qui traite à droite comme à gauche l'information musicale et l'information langagière, ce qui va créer du coup deux passerelles entre les deux. Si on pense d'ailleurs, le chant, c'est une bonne passerelle parce que dans le chant, il y a l'information musicale et l'information langagière en même temps. On peut même imaginer que peut-être, il y a un chercheur anglais qui dit que peut-être qu'au final, la première langue de l'homme était une langue chantée.
Ah oui.
Pourquoi pas?
Mais le son, hein, en fait, voilà, oui, c'est sûr. Bon, est-ce que la pratique d'un instrument peut modifier la morphologie du cerveau?
Oui, il va modifier la morphologie, il va aller encore plus loin. Donc la morphologie, je disais un tout petit peu tout à l'heure, la pratique d'une manière générale va modifier le nombre des synapses,
oui.
Donc les connexions qui existent entre les neurones, ça s'appelle les synapses. Et donc ça, des connexions, on peut en faire pas mal. Chaque neurone peut avoir jusqu'à 6000, 10000, je ne sais plus trop. Et donc on peut en générer des nouvelles. Et donc c'est sûr qu'il y a certains aires qui sont particulièrement stimulés par la musique, par la pratique musicale, qui vont... Là, on va du coup retrouver beaucoup plus des synapses et donc même des changements de forme du cerveau. Mais les changements les plus importants, on les trouve au niveau du fonctionnement de certains aires, sans que cela puisse avoir un impact forcément sur la forme. Parce que la forme, c'est quand même des changements majeurs, mais sur comment l'information est traitée par une aire donnée, ça, oui, ça c'est fortement influencé pour la musique et c'est fortement influencé par la pratique de la musique. Au niveau de toutes les fonctions dont je viens de parler, qui sont importantes pour la musique et aussi pour le langage. Donc voilà, c'est important de garder ça à l'esprit. Donc on trouve des modifications du fonctionnement cérébral, pas seulement pour les fonctions qu'on pourrait imaginer comme des fonctions musicales, donc bouger plus vite les doigts, mais pas que ça, mais par exemple pour d'autres fonctions qui sont beaucoup plus larges, par exemple l'attention, la mémoire de travail, donc le fait que les musiciens ils ont une mémoire énorme, ils savent filtrer l'information qui est pas intéressante mieux que d'autres musiciens, ils savent filtrer le bruit aussi mieux que de nos musiciens, etc. Et tout ça c'est grâce à des modifications du fonctionnement du cerveau.
Bien, enfin pour terminer, il nous reste 2-3 minutes. On parle de musicothérapie. Alors, depuis le début de cette émission, on a un peu abordé les bienfaits, les apports de la musique, etc. La musicothérapie, elle est là pour soigner certains troubles. Quels sont les troubles auxquels elle peut amener quelque chose?
Alors, il y en a plusieurs, et c'est vrai qu'il y a un crescendo, surtout en France, mais dans le monde d'une manière générale, sur l'utilisation de la musique, sur des bases, du coup, de recherche neuroscientifique. Et on peut bien sûr imaginer, sur ce que je viens de dire, sur la similarité entre musique et langage, que la pratique de la musique va faciliter, et ça on le sait, les musiciens déjà, ils apprennent plus facilement une langue étrangère, ils perçoivent mieux la parole dans le bruit, etc. Et du coup, toutes ces fonctions-là et sont importantes pour un enfant qui est malentendant. Par exemple, un enfant qui est malentendant, le bruit, pour lui, c'est un des problèmes clés, même s'il est appareillé. Et donc, la pratique de la musique va l'aider à mieux traiter les sons et mieux filtrer et séparer les sons plus importants par rapport aux sons qui sont non pertinents. Mais c'est utilisé d'une manière générale pour d'autres troubles du développement du langage, donc tout ce qui est troubles du langage, dans la rééducation, mais pas seulement chez l'enfant, donc dans la dyslexie, chez les enfants dyslexiques. Nous avons mené des projets en Italie en montrant qu'effectivement, la pratique de la musique va faciliter chez les dyslexiques, en fait, ce qu'on appelle la conscience phonologique, donc la conscience du fait qu'il y a des sons qui sont différents, que ces sons ils sont associés à des lettres différentes, du coup, qui facilitent la lecture chez l'enfant. Mais on utilise la musique aussi historiquement depuis une quarantaine d'années chez les patients aphasiques pour les aider à récupérer. Donc le patient aphasique, c'est suite à un accident vasculaire cérébral, il va plus être capable de parler et donc il va devoir réapprendre à parler. Et là, la musique et le chant sont très importantes pour l'aider. Donc tout ce qui concerne la pathologie du langage, c'est très répandu. Et il y a aussi les troubles moteurs. Par exemple, chez les patients parkinsoniens qui ont, eux, des problèmes au niveau du contrôle moteur, là aussi, la musique et les aspects rythmiques de la musique sont utilisés pour faciliter les patients parkinsoniens à initier ces mouvements. Et il y a les aspects plutôt émotionnels aussi, dont nous avons aussi un tout petit peu parlé, donc tout ce qui est troubles émotionnels chez l'autiste, par exemple, mais aussi chez les malades d'Alzheimer. où la musique en fait peut aider à recréer un lien émotionnel, parce que le malade d'Alzheimer, il va se souvenir de certaines chansons, il va être très content de les réentendre, il va être content de le chanter. Et donc voilà, il y a tout un ensemble du coup assez vaste de pathologies pour lesquelles la musique peut intervenir avec beaucoup de bénéfices.
Merci beaucoup Daniel, je suis sûr qu'on aurait eu encore 2 heures, on aurait pu encore parler.
Je pense que oui.
Peut-être plus. Mais en tout cas, merci, tu nous as beaucoup éclairé sur bien des sujets. Merci d'avoir consacré ce temps-là. Chers auditeurs, à la semaine prochaine. Bonsoir. C'était Judaïsme pluriel. Alors à la semaine prochaine. Au revoir.